Voilà, eh bien alors nous allons commencer cette nouvelle année, qui sera pour nous une année d'atterrissage, puisque dans un mois, nous en aurons fini les uns avec les autres ici, pour ce cours. Je ne sais pas quoi vous souhaiter, moi d'abord la santé, je crois que c'est la première chose, parce que quand on a des ennuis de santé, comme disait le père Lyonnais, quand je travaillais, je croyais que j'étais courageux, mais en fait, j'étais en bonne santé. Et quand on n'est pas en bonne santé, je dirais on travaille un peu moins vite. Donc, je vous souhaite d'abord la santé, ensuite, eh bien, de partager toutes les joies dans vos familles, et puis de vous épanouir aussi en lisant la Bible, pour y découvrir un peu à la fois la joie qu'il peut y avoir à avoir ces textes comme textes fondateurs. Vous imaginez qu'on serait dans une autre culture, une autre religion, nous n'aurions pas ces textes fondateurs. On en aurait d'autres qui sont pas mal, mais je trouve que ceux-là quand même sont d'une grande richesse, et surtout dans ce concentré que constitue le psautier. Hein. Je vous ai montré ça au début du cours. C'est un peu le diamant de la Bible, le psautier, puisque tout se reflète dans quelques traces, dans quelques versets. Alors, vous allez voir aujourd'hui, en plus, le psaume que j'ai choisi, le psaume 19, est un psaume d'une grande beauté, d'abord, et théologiquement extrêmement fort, comme vous allez le constater. Je pense que vous avez déjà découvert plein de choses à la lecture. Alors, je me suis aperçu que, en préparant un petit peu tout ça, parce que moi, pendant les vacances, je travaille. Et une fois que tout est prêt, maintenant, je peux prendre des vacances, c'est-à-dire quand personne n'en prend. C'est doublement jouissif, si je puis dire. Et donc, j'ai un petit peu travaillé pour la suite. Et alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a encore deux bonnes séances. À peu près. Donc là, comment ? Avec celle d'aujourd'hui, ça fait 3. Mais il en restera 2 après. Alors, j'ai prévu pour la prochaine séance un psaume très difficile, mais très important du point de vue théologique, le psaume 22, hein, le psaume de la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ayez vu. Et puis on terminera sur des psaumes qui posent des problèmes techniques à la fois complexes et qui ont l'air faciles. Ils ont l'air faciles comme ça, mais en fait, ils posent des problèmes complexes. Ce sont des psaumes très très courts. Donc, il n'y aura pas trop de problèmes de technique dessus. Le psaume 22, ce qui nous intéressera particulièrement, vous verrez l'affiche en fait état. C'est un petit peu l'importance qu'il prend dans le Nouveau Testament. Enfin, pourquoi ce psaume est-il cité au moment de la croix? Et c'est surtout pour ça que je l'ai pris, c'est à cause de ses résonances néo-testamentaires. Le psaume 19, je l'ai pris pour des raisons que vous allez découvrir progressivement et qui sont essentiellement des raisons d'articulation entre deux thèmes. On a souvent vu l'articulation de deux thèmes. Vous vous souvenez, le psaume 114, c'est l'articulation de la création et de l'exode, enfin, ou de la nomadisation. Le psaume 1 est un psaume complètement consacré à la loi. Le psaume 95, là aussi, il y a encore une articulation entre création et exode. Et là, aujourd'hui, on a une articulation entre création et loi. Encore une autre articulation à dégager. C'est pour ça qu'auparavant, je vous ai fait voir des psaumes de création, le psaume 8, et puis le psaume de la loi, le psaume 1. Vous voyez comme quoi le plan n'est pas totalement aléatoire dans le cours. Et quand ça se mélange, évidemment, ça devient plus compliqué si on n'a pas des idées claires d'abord sur le sens du texte. Alors, ce psaume 19 semble facile, mais en fait, c'est un psaume relativement complexe et très important du point de vue théologique et surtout pour les commentaires auxquels il a donné lieu travers des grands auteurs comme Kepler, que je vous ai cité, mais je vous en citerai un autre tout à l'heure, qui est M. Kant, et qui a beaucoup, qui a fait un commentaire de ce psaume-là tout à fait remarquable. Pas donné le texte exprès, parce que le texte de Kant est un petit peu difficile, donc je vais essayer de vous le ruminer à ma façon. Alors on commence comme d'habitude hein, par les problèmes de structure. D'abord, on regarde un petit peu le texte, s'il y a des questions à se poser. Ensuite, les petits problèmes de structure. Alors, pour ce qui est du texte, on suit un peu la fiche là pour commencer. Hein. Je dirais que le texte massorétique pose un petit problème à un endroit que le Targum va essayer d'élucider. Alors, je vous ai donné la traduction de Dorme, la traduction de la Pléiade. Vous savez que là, je vous ai dit ça plusieurs fois, la meilleure traduction en français de la Bible, c'est la Pléiade pour l'Ancien Testament. Elle n'est pas très commode pour travailler puisque il n'y a pas de division du texte, il y a simplement les chapitres et les versets. Les notes sont très pauvres et il vaut mieux que vous ayez comme Bible à la maison la Bible de Jérusalem, qui me paraît meilleure que la Tob, à la limite. Même si la Tob est très riche dans ses notes, elle est souvent fautive dans sa traduction. Il y a un petit problème de dire qu'on est un peu loin du texte. Et ça n'a rien de poétique, parce qu'on nous fait chanter avec le psautier liturgique... Je m'y plie comme tout le monde, enfin, en frémissant. Bon, Dorme connaît le français et il connaît l'hébreu très bien. Alors, qui était Dorme? C'est important que vous le sachiez. C'est quelqu'un qui a été directeur de l'école biblique dans les années 1935. Et puis, à la suite d'une aventure un peu idiote, il a quitté l'ordre des Dominicains, il s'est marié. Et il a changé de nom. Donc, quand il était dominicain, il s'appelait Paul. Quand il était civil, il s'était appelé Édouard, son nom de baptême. Et il a été professeur. D'abord, il a été sans boulot pendant un certain temps. Et puis, il a fini sa carrière professeur au Collège de France pour les études orientales. C'est un des plus grands orientalistes français hein, du XXe siècle. Et qui est resté tout à fait dans les clous, je dirais, de la foi chrétienne ou catholique. Donc, il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Il connaissait toutes les langues orientales, enfin, c'est le genre de type un peu... comme on n'en trouve plus maintenant. Je ne l'ai pas connu, hein. Il est mort avant que je sois rentré. Il est mort dans les années 50-60. Mais j'ai beaucoup entendu parler de lui. Tout ce que vous trouvez sous le nom de Dorme est toujours excellent, hein. Dans les bibliographies. Alors, il a traduit donc la Bible pour la Pléiade, et ce qui est intéressant de la traduction de Dorme dans la Pléiade, c'est que chaque fois qu'il ne peut pas traduire l'hébreu, il le dit en note, voilà, je ne peux pas traduire l'hébreu ou je ne comprends pas l'hébreu, et il dit je fais autre chose. Ce que ne fait pas ni la Tob ni la BJ de prévenir qu'ils sont en train de prendre un autre texte que le texte hébreu. Comme vous savez, le texte hébreu est plus tardif que le texte grec, ou le texte grec sur lequel on a fait une traduction en grec est plus ancien, donc quelquefois plus fiable. Enfin, il faut savoir ce qu'on veut, hein, c'est-à-dire si on veut prendre le texte grec, qu'on prenne le texte grec, mais qu'on ne mélange pas les textes, parce qu'on est dans des passages d'une langue à une autre, et toujours des changements notables de sémantique ou de syntaxe, surtout quand il s'agit de l'indo-européen et du sémitique. Alors, quand vous regardez le texte de Dorme, c'est assez bien fait. Les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament annonce l'œuvre de ses mains, le jour au jour en dit une parole, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole, pas de mots, leur voix n'est pas entendue. Voilà, ce côté-là, il a choisi, bon. Mais dans toute la terre, leur rythme est perçu et leur discours au bout du monde. Et puis après ça, pour le soleil, il a dressé une tente. Alors, la Tob, je n'y reviens pas. La Septante est intéressante parce qu'au verset 5, c'est à la page 2, au verset 5, « Leur parole n'est pas allée par toute la terre et leur message jusqu'aux limites du monde. Dans le soleil, il a placé son tabernacle et lui-même est semblable à un époux. » Qui sort de sa chambre nuptiale, je dirais que l'idée de chambre nuptiale est beaucoup plus appuyée dans la Septante qu'elle ne l'est dans le... Pour le soleil, il a dressé une tente sur la mer, et lui, comme un époux, sort de sa chambre nuptiale, il est content à un héros de parcourir sa route. Bon. Et après ça, sur la loi, ça bouge pas beaucoup. La Vulgate, alors la Vulgate, ce ne sont point des paroles ni des discours dont on n'entend point les voix. Là, elle a changé un petit peu les choses. Leur bruit s'est répandu dans toute la terre et leurs paroles jusqu'aux confins du monde. Heureusement qu'il y a la Vulgate. Vous savez que c'est le verset qui sert pour la fête des apôtres. L'hébreu dit « on n'a rien entendu » et la Vulgate dit « on a entendu ». Donc, c'est souvent mieux pour la liturgie de prendre la Vulgate, mais il faut dire qu'on prend la Vulgate. Hein, c'est-à-dire, Jérôme, lui, a compris qu'on entendait les voix, alors que le texte massorétique dit qu'on ne les entend pas. Le Targoum, la même chose, « Et leur voix n'est pas entendue, mais l'extension de leur dessein est perçue par toute la terre et leur discours au bout du monde. » Là, on est un peu dans la même logique que la Septante. Voilà, bon, quelques petites notations sur le texte et différentes traductions que vous avez. Alors, deuxième partie, est-ce qu'on a deux psaumes ou un seul psaume ? Bien. Alors, premièrement, je dirais que beaucoup d'auteurs disent il y a deux psaumes. À partir du moment où vous avez deux thèmes concurrentiels, ici création et loi, il y a des auteurs qui ne supportent pas qu'une partie soit consacrée à un thème et l'autre partie à un autre thème. Donc, la plupart des auteurs du 19e siècle et début 20e siècle disent à l'origine, il y avait un psaume, qui était la première partie du psaume sur la création, et une autre partie qui a été composée beaucoup plus tard, au moment où la Torah a été ficelée, et puis un rédacteur ultime les a mis ensemble, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un psaume, mais qui en fait est composite, c'est-à-dire fabriqué de deux psaumes. Alors, ils n'ont pas beaucoup d'arguments pour eux, parce que aussi bien la Vulgate, la Septante et le texte hébreu n'ont pas de division. Vous savez, quelquefois la Vulgate et la Septante divergent de l'hébreu, en particulier le psaume 114 n'est que la première partie pour l'hébreu. Le 114 est un psaume à part entière, suivi du 115. Bon, donc il y a deux psaumes. Eh bien, ces deux psaumes 114-115 n'en font qu'un dans la Vulgate ou dans la Septante. Si vous avez chanté les Vêpres dans le temps, vous aviez la première partie In exitu Israël, puis la deuxième partie qu'on enchaînait tout de suite comme étant le même psaume, Non nobis domine, non nobis, sed tuo nomine, etc., da gloria. Bon, moi, je vais laisser encore dans cette langue-là. J'ai plus de mal avec le français. Bon. Alors, donc, à mon avis, on peut considérer qu'effectivement, peut-être que l'auteur, moi, j'ai plutôt tendance à penser ça, plutôt qu'un auteur final ou un rédacteur final a ficelé ensemble de psaumes, l'auteur peut avoir des modèles en tête, mais il a une composition organique, comme va le révéler la structuration du psaume, justement. Voilà. La structuration du psaume, elle sert à quoi souvent ? Elle sert à démontrer l'unité d'un texte qu'on croirait composite. Vous voyez un petit peu la différence. Hein. Pour certains, donc, il y a deux psaumes qu'on a raccordés à un moment. Et pour moi, personnellement, je pense que nous avons exactement un psaume. Alors, deux parties ou trois parties, Je pencherai plutôt pour deux, même si beaucoup d'auteurs sont pour trois, et il y aurait beaucoup d'arguments pour qu'on fasse trois. Bon, j'ai plutôt tendance à l'économie dans ce domaine-là, vous voyez, donc pas trop. Alors, si vous prenez la première partie, qu'on va appeler le psaume 19a, c'est les versets 2 à 7, le titre ne compte pas, hein. Vous avez une magnifique inclusion entre le verset 2 et 7, et manifestement, ça constitue une unité repérable. En particulier, vous avez au verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu », et au verset 7, « À la limite des cieux ». Donc on a bien une inclusion qui indiquerait une certaine unité. Et puis, d'un bout des cieux, il surgit, voilà, à la fin. Donc, cette inclusion, vous vous souvenez, indique d'entrée de jeu que le thème du poème, tout au moins pour la première partie, hein, puisque la périphérie du psaume indique le thème à travers lequel, dont on va traiter, et ce thème, c'est les cieux, c'est-à-dire la création. Et à l'intérieur, on peut diviser en deux parties, deux sous-sections, 2 à 4 et 5 à 7. La première section, 2 à 4, trouve son unification dans le thème de la parole, nous allons y revenir. Hein, tous les mots qui constituent le langage, raconter, publier le récit, transmettre la connaissance, récit, langage, voix, mots, lignes, etc., etc. Vous voyez, donc, est unifié par ça. Et 5 à 7, au contraire, est unifié par une autre sémantique qui est sortir et limite. Hein, par toute la terre ressortent les limites du monde. À la limite des cieux, l'autre limite, c'est intéressant, hein, le mot limite est sature un petit peu cette deuxième partie. Donc leur harmonie éclate par toute la terre et leur langage au bout du monde, ou à leur limite, etc. Et rien n'échappe à sa chaleur. Donc en gros, la première partie prétend quelque sorte parler de la création et elle se divise un peu en deux parties. Une première partie qui est consacrée plutôt à l'ensemble des cieux et la deuxième partie qui est plutôt consacrée au soleil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme un entonnoir, on part du plus large, les cieux racontent la gloire de Dieu et on va se focaliser ensuite sur le soleil. Une espèce de petit hymne au soleil, à la fin, où on va montrer le mouvement du soleil, alors que les cieux sont dans leur fixité absolue. C'est intéressant comme image. C'est-à-dire, vous avez une magnifique panoplie, un espace dessiné par les cieux et le firmament. Ça bouge pas. Hein. C'est vraiment d'une grande stabilité. Et un élément dynamique à l'intérieur de cette espèce de coupole, hein, sur lequel qui bouge pas du tout, un élément dynamique qui bouge et qui est le soleil, qui sort le matin, hein, et qui rentre le soir dans l'obscurité. Hein. Il quitte l'obscurité pour entrer dans la lumière et créer la lumière, et le soir il quitte la lumière pour entrer dans l'obscurité. Vous avez une très belle illustration égyptienne de ça, parce que c'est un petit peu inspiré de l'Égypte, on va le voir tout à l'heure, où vous avez la déesse Nout. La déesse Nout, c'est une femme nue et qui est représentée, si vous voulez, dans cette position. Alors, l'élément qui unifie les deux sections, je vous ai posé la question, mais c'était relativement facile à répondre. Il s'agit d'éléments qu'on va retrouver tout à l'heure dans la sémantique, mais ce qui les unit, c'est que justement, le ciel découpe un espace appelé convexe, hein, mais statique, et à l'intérieur duquel se pose un espace dynamique où bouge quelque chose qui est le soleil, et qu'on va comparer à un époux. Je vais y revenir tout à l'heure. Je continue pour la structure, hein. Maintenant, si vous prenez la partie 19, oui. Ce qui unifie les deux questions, si vous voulez, c'est qu'il s'agit bien du monde cosmique, hein, dans les deux cas, mais l'un étant la partie statique du cosmos et l'autre la partie dynamique à travers le Soleil. Il aurait pu prendre la Lune éventuellement, hein. Là, il a pris le Soleil. Voilà ce qui fait l'unité des deux. Et puis surtout, je vous donnerai tout à l'heure au point de vue de la sémantique, mais déjà j'annonce la sauce, c'est qu'en fin de compte, les deux ont des comportements anthropologiques. C'est-à-dire que les cieux parlent et le soleil se comporte comme un époux. C'est-à-dire qu'on a utilisé deux métaphores, la parole pour parler du ciel et la métaphore de l'épousaille, enfin de l'époux qui sort de sa chambre nuptiale pour parler du soleil. Ça va? On a un petit peu le fonctionnement. On va y revenir avec la sémantique, hein. On est uniquement tout à l'heure dans le travail, disons, de structure du texte. Alors, la deuxième partie, 19b, ça va commencer avec le verset 8, bah, pour se terminer avec la fin. Et là aussi, on a une inclusion qui est dessinée. Puisque au verset 8, vous avez la loi du Seigneur est parfaite, la loi de Yahvé est parfaite, et au verset 14b, vous avez alors je serai, non pas en français irréprochable, mais je serai parfait. Même s'il est traduit. Vous voyez le problème des traductions mal faites. Là, vous avez une très belle inclusion qui est repérable grâce à une synonyme, enfin, à l'emploi du même mot. Si vous, irréprochable, il n'y avait pas besoin de mettre irréprochable. On pouvait mettre je serais parfait. Je sais que parfait peut se décliner sous la forme de être irréprochable. Quelqu'un dit ma femme est parfaite, ça veut dire qu'on n'a pas de reproche à lui faire. Bon, très bien. Mais même la Bible ose dire la femme parfaite qu'il la trouvera. Bon, non, ça doit être la perle rare. Mais quand même, on peut dire de quelqu'un qu'il est parfait, même si c'est dur à trouver. Irréprochable, on est un peu coincé. Oui, c'est très dommage parce que ça, je dirais qu'on ne peut pas le voir si on ne fait pas une traduction mot à mot. Donc, vous avez parfait, la loi est parfaite, et moi, je serai parfait. Tiens, c'est intéressant, puisque on passe de la loi, source de perfection, à l'effet de la loi sur quelqu'un, qui est de rendre parfait quelqu'un. Mais c'est exactement le même terme qui est employé. Et on explicite ce que c'est que la perfection à la fin, je vais y revenir. Je serai pur du grand péché. Hein. Je serai pur du grand péché. On verra ce que c'est que le grand péché. Donc, vous avez une inclusion dans cette deuxième partie. À l'intérieur de cette deuxième partie, vous avez deux sections qui vont se décomposer en 8, 10 et 11, 15. La première section, 8, 10, s'établit à partir de l'inclusion qui est formée par le terme. Ah oui, ça le problème, c'est que c'est traduit en français par véridique et vérité, ou par fidélité dans certains de vos textes, en fin de compte, c'est émettre, hein, c'est tout simplement le mot le plus classique qui soit pour dire la chose, c'est le mot que vous connaissez bien. Témoignage de Yahvé et véridique, verset 8. C'est Aman, hein, c'est ça. Vous connaissez la racine Aman quand même, vous la dites tout le temps. Hein. Aman, Amen. Et vous savez ce que ça veut dire? Je vous l'ai déjà dit, non? Parce que comme je fais un autre cours à côté, je suis sûr de l'avoir dit dans l'autre cours, je ne suis pas sûr de vous l'avoir dit. Non, juste, ah ben voilà, c'est bien, ben, ça va, c'est que je ne l'ai pas dit. Parce que vous ne le direz plus après. Aman signifie porter. Porter. Quelque chose. Non, pas quelque chose. Porter quelqu'un. Et le dérivé immédiat de aman, qui est le verbe, vous savez qu'en français, on donne les verbes à l'infinitif. Donner, finir, etc. Bon. En latin, on les donne à la première personne du présent. Moneo, etc. Duo, en grec, pareil. Bon. En hébreu, on la donne à la troisième personne du singulier du passé. Hein? Donc, a, ça indique une de aman, katal, etc. Bon. Si vous avez a, généralement, vous avez la troisième personne. C'est ce qu'on appelle le paradigme du verbe. Si vous cherchez dans le dictionnaire, il ne faut pas chercher à l'infinitif, il faut chercher à l'accompli, etc. Bon. Alors, aman, ça veut dire porter. Mais porter un enfant, et le substantif qui dérive de aman, c'est omen, la nourrice. On voit ce que c'est qu'une nourrice, c'est quelqu'un qui porte un enfant et qui le nourrit. Bien. Et donc, à partir de cette racine-là, pour en comprendre le sens, et en particulier le sens de « Amen », que nous disons tout le temps, il faut faire référence à la prophétie d'Isaïe, que nous avons lue pendant le temps de l'Avent, et qui est Isaïe 7, 14. Vous savez que Isaïe vient trouver Akaz, qui est effrayé parce qu'il y a une guerre qui vient de s'engager contre lui, bien. Et le prophète Isaïe lui dit, n'aie pas peur, les deux ennemis qui t'ont attaqué, dans quelques années, eh bien, il n'en restera rien. Et il termine en lui disant, demande un signe, et comme tu ne veux pas en donner, ben, je vais t'en donner un. Tu as une de tes épouses qui est enceinte et qui enfantera un fils qui s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous, etc. Bon. Et puis il termine par un proverbe, qui joue sur la racine aman, et que moi, généralement, c'est traduit dans vos Bibles, si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas, mais là encore, on passe à côté du jeu de mots, puisque c'est la racine aman à deux formes qui est utilisée, et que moi, je traduis tout simplement, si vous ne vous laissez pas porter par moi, dit le Seigneur, vous ne pourrez pas vous porter tout seul. Ça y est ? Donc, amen. Ça veut dire, je me laisse porter par Dieu. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est se laisser porter par Dieu. Donc c'est pour ça qu'amen, vous pouvez traduire à la fois par foi, et donc fidélité. Vous pouvez aussi traduire par vérité. Vous pouvez aussi traduire par solidité, etc. Hein, y a pas... Ici, ils ont traduit par véridique, vérité. Bon. Mais c'est pas idiot. Mais le problème, c'est que dans un texte, s'il y a le même mot ou la même racine, il faut essayer de la traduire. Ici, c'est pas trop mal. Véridique, vérité, c'est pas mal. Mais si vous avez fidélité, c'est une très bonne traduction de amen. Mais sachez que ça veut dire la foi, et que la foi n'est pas un concept pour les Hébreux. La foi est une attitude qui consiste à se laisser porter par Dieu comme un enfant se laisse porter par sa nourrice ou par sa mère. Et donc, si on se laisse porter par Dieu, on pourra se porter tout seul, on pourra tenir. Alors, quelquefois, d'autres traductions sont pas trop mauvaises pour Isaïe 7, 14. Si vous ne tenez pas à moi, vous ne pourrez pas tenir. C'est pas idiot. C'est pas trop mal. Mais on perd la métaphore de la nourrice. Hein, ou de, vous voyez un petit peu le signe. Alors, quand vous dites Amen, ça veut pas dire d'accord. Ça veut dire c'est vrai. Ça tient. Et j'y tiens. Vous voyez un petit peu la différence. Hein. Alors ici, c'est ce que nous avons, le témoignage. Alors, tous les mots qui vont désigner la loi, on va y revenir tout à l'heure, la loi, le témoignage, les préfètes, la crainte, les jugements, tout ça, c'est des mots équivalents, enfin relativement sur la même chaîne sémantique avec des nuances, mais ici, ils perdent un petit peu leur propre valeur. Et vous avez donc vérité à propos des témoignages, et vérité à propos des jugements, ça fait une très bonne inclusion, mais on pourrait dire que le raccord, donc ça c'est la première partie, hein, la première section de la deuxième partie, qu'on peut traduire par fidèle, vous voyez, j'ai traduit par fidèle, sûr, alors, la TOB, là, elle met sûr dans un cas, elle met vérité dans l'autre, bon, vous voyez, ce qui fait qu'on ne peut pas travailler là-dessus. Et puis la seconde partie, 11 à 15, est plus complexe. Elle comporte une tripartition formée par la répétition du même mot « beaucoup » et « ton serviteur » avec des termes synonymes comme « garder »,« préserver », bon, « plus désirable que l'or et que l'or fin »,« plus savoureuse que le miel », etc. Je reviendrai un petit peu là-dessus. On pourrait dire en gros que ces deux parties qui se divisent en deux sections chacune, avec une petite finale, on retrouve à partir du verset 12 jusqu'à 15, qui à mon avis fait partie de la deuxième partie, on pourrait éventuellement en faire trois, mais vont se trouver unifiés. Justement, le verset 15 est une espèce de verset où on reprend un petit peu ce qui est dit dans les autres passages, et en particulier des mots qui appartiennent un peu aux deux champs sémantiques de la première et de la deuxième partie, puisque le mot « caché », hein, le soleil, il a son lever et sa course atteint l'autre limite, à sa chaleur, rien n'est caché, et vous avez au verset 13b, purifie-moi du mal caché. Hein, donc vous avez la finale de la première partie qui se termine par caché, c'est le soleil hein, qui permet que rien ne soit caché, et la loi qui finalement va me délivrer du mal caché dans les deux cas. Là, vous voyez, on a une espèce d'articulation. Et puis, une deuxième affaire également, c'est le mot « cœur » qui est présent dans le verset 9 et qui est présent dans le verset 13. « Les préceptes de Yahvé sont droits, joie pour le cœur, et agré les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur. » Vous voyez, c'est présent. Et donc là, il y a quelque chose qui est propre à ça. Alors, ce qui fait l'unité, c'est évidemment le mot « cœur » qui est présent dans les deux, et il y a d'autres indices. Alors, il y a un indice intéressant quand même. Combien de fois il y a Yahvé dans le texte ? Combien ? Alors, je ne compterai pas comme ça, moi. Je dirais 6 plus 1. Non, vous voyez, c'est toujours intéressant parce que vous avez fait le compte, 7, c'est pas aléatoire, 7. Je veux dire, il y aurait eu 6, bon, on s'est dit, tiens, il a dû laisser tomber quelque chose, bon. Mais 7, tout de suite, on est dans un chiffre. Alors, dans toutes les cultures, les chiffres ont des symboliques, mais ici, il est clair que 7, c'est la perfection. Bon. Seulement, pourquoi je dis 6 plus 1 ? Parce que dans 6 cas, il y avait. Et le complément de nom de la loi, enfin, ou d'un terme qui connote la loi. Et à la fin, Yahvé revient, mais pas justement connecté à la loi, hein, puisque c'est sous la forme, au contraire, d'un changement de ton, qui est « Agrée les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur, sans trêve devant toi, Yahvé, mon rocher, mon rédempteur. » On va revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, l'idée de... Le septième, si vous voulez, n'a pas la même posture que les six premiers. C'est pour ça qu'on met bien les six premiers ensemble. Et le septième vient à la fin avec une autre signification. On pourrait dire, pour faire clair, que la deuxième section, c'est-à-dire 19b, est constituée de deux parties. Une première partie sur la loi, qui est déclinée sous différentes formes, et qui est déclinée sous la forme d'un récit. La loi est parfaite. Vous savez la différence entre un récit et un discours. Un récit, c'est « la loi du Seigneur est parfaite, elle réconforte l'âme », c'est-à-dire « je parle d'une chose », c'est ça un récit. Et le discours, « je m'adresse à quelqu'un ». Et effectivement, toute la première partie est constituée d'un récit sur la loi. Je vous signale entre parenthèses que toute la première partie du psaume 19a n'est qu'un récit. Ici, qu'on n'entend pas d'ailleurs. Bon, on va voir pourquoi. Donc la première partie est un récit. La deuxième partie, au contraire, elle mélange une partie récit sur la loi et une possibilité de discours, donc de parole, de la part de celui qui récite ce psaume-là ou qui en est l'auteur. Ça voudrait dire au fond que face aux cieux qui racontent la gloire de Dieu, je ne peux pas prendre la parole. Pas dire quelque chose. Dans ce psaume-là, dans d'autres psaumes, au contraire, devant la beauté des cieux, eh bien, je vais dire à Dieu, c'est merveilleux ce monde que tu as créé. Vous voyez, on va avoir une louange performative, c'est-à-dire une louange où je vais prendre la parole après avoir raconté les merveilles du ciel. Ici, la parole ne se prend qu'au terme de la loi. Parce que justement, la loi intérieur permet une prise de parole, c'est-à-dire une transformation intérieure que ne peut pas produire la création. Déjà, vous êtes sur l'amorce de ce que veut dire l'auteur. Le texte de la première partie dit ben, « Les cieux, c'est formidable, ça raconte la gloire de Dieu. » Et finalement, c'est uniquement de la vue, enfin, au niveau de ce qu'on voit, parce que les paroles, on ne les entend pas. Alors que la loi, au contraire, elle est décrite comme quelque chose de cosmique, et en même temps, elle permet de prendre la parole. Tous les attributs de la loi sont cosmiques, tous les attributs du ciel ou du soleil sont anthropologiques, alors que la loi, qui est un concept fondamentalement anthropologique, a des attributs cosmiques. C'est quand même étonnant. Elle illumine, elle réjouit, etc. On va développer ça dans la sémantique. Et à la fin, il y a donc une prise de parole. Quoi, ton serviteur s'en pénètre. Bon, très bien. Purifie-moi, préserve-moi, agrée les paroles de ma bouche. Bon, la prise de parole. On pourrait dire qu'il y a une inclusion entre la première partie et la deuxième. Cette inclusion étant là par un changement de nom de Dieu, mais on a déjà vu ça dans un psaume, hein. C'est-à-dire qu'au début on dit Dieu et à la fin on dit Yahvé. Hein, vous avez déjà vu ça dans un psaume, mais manifestement c'est pour montrer qu'on passe de Dieu ou du Dieu du ciel, un Dieu impersonnel, un Dieu créateur, à un Dieu personnel qui est Yahvé, un Dieu particulier. Donc les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est le seul cas où Dieu est nommé dans la première partie, mais sous forme impersonnelle. Il ne raconte pas la gloire de Yahvé, c'est ça que ça veut dire. Alors, aurait très bien, ça lui coûtait pas cher de mettre, au lieu de mettre les cieux racontent la gloire de Dieu, les cieux racontent la gloire de Yahvé. Ben non, c'est pas la gloire de Yahvé. On est encore dans un Dieu impersonnel. Alors que dans la deuxième partie, ça se termine, agrès sans trêve, devant toi Yahvé, là on retombe sur le Dieu personnel qui fait inclusion avec le Dieu. Entre les deux, si vous voulez, on est passé d'un Dieu cosmique impersonnel à un Dieu personnel et particulier qui est Yahvé, à qui je peux dire tu. Je ne peux pas dire tu à Dieu, je peux dire tu à Yahvé. Vous voyez un peu la différence un peu qu'il y a entre les deux. Bon, le type, il joue évidemment sur des choses extrêmement... Alors, tout ça, ça va être confirmé par la sémantique. Hein. Alors, maintenant, si vous prenez la sémantique du psaume, vous allez constater que, en fin de compte, dans la première partie, c'est surtout le registre cosmologique et sensoriel qui est stimulé. Registre cosmologique et sensoriel qui est stimulé, mais immédiatement configuré de manière anthropologique et auditif. Je dirais en gros, si vous voulez, qu'il y a tout un registre cosmologique sensoriel visuel, et il y a un registre anthropologique tout à fait auditif. Ce qu'on dit du ciel, en fin de compte, c'est quelque chose qu'on pourrait dire de l'homme. Alors, prenons le registre cosmologique et sensoriel. Donc, je vous ai déjà parlé de l'espace immobile, les cieux, le firmament. Vous savez que le firmament, c'est une espèce de plaque de ferraille qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Ça, vous le saviez. Hein, le firmament. Oui.
En fait, c'est pas si immobile que ça. Parce que...
Ah non, elles sont collées. Oui, mais elles sont collées au plafond. Elles sont collées au plafond, alors ça bouge un peu. Ça bouge un peu, mais en gros, ça tient. C'est justement, ça bouge, c'est un peu comme l'arbre qui est planté là. Si je souffle un peu dessus, vous allez avoir l'impression qu'il bouge. En fin de compte, il est attaché, il est accroché. Hein. Ils sont accrochés. Voilà. Et pour lui, les étoiles sont fixes par certains côtés. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls à le penser. Et le soleil, au contraire, le grand mystère des anciens, c'est qu'est-ce que c'est que ce soleil ? Il se lève le matin, enfin je vais parler comme les non-coperniciens, hein. Le soleil se lève le matin et se couche le soir. C'est vachement, qu'est-ce qui se passe quoi, bon, d'où il vient. Alors bon, en gros la plupart des anciens, c'est surtout les Grecs qui ont traité de ça, mais... Oui, on est dans une cosmologie qui est tout à fait archaïque, hein, mais elle est très belle. Mais en même temps, on sait qu'elle sera démentie. Ce qui faisait dire d'ailleurs à mon ami Janière, qui était un jésuite, les cieux racontent la gloire de Dieu, mais aujourd'hui, quand on connaît les lois de Newton, les cieux ne parlent que d'eux-mêmes, c'est un jeu de boulets de billard, hein. Donc, est-ce qu'il faut fonder les cieux? C'est vrai, quand je vois un beau paysage, ça me porte plutôt à la prière. Bon. Mais quand vous réfléchissez un peu profondément à ce que vous êtes en train de contempler, c'est vraiment de la mécanique, c'est des maths. Bon, mais la musique aussi, c'est des maths. Et ça déborde justement les maths. Oui. Ben non, justement. C'est-à-dire que le... Non, je veux dire, quand vous savez que tout ça, c'est purement de la mécanique, et heureusement que c'est de la mécanique, ça permet d'aller sur Mars, ça permet d'aller sur la Lune, hein, mais ça ne porte pas... Je crois que nous, on est encore dans une mentalité où la beauté de l'univers nous porte à louer le Créateur, beaucoup de scientifiques vous disent, mais tout ça, c'est un système qui est bien réglé, mais c'est un jeu de boules et de billard avec une loi mathématique. Ce que disait, je crois que c'est l'expression doit être de... Je me demande si c'est de Galilée ou d'un autre, mais je vous la retrouverai. Dieu nous a parlé à travers deux choses. Le langage de la révélation qui est écrit avec des mots, et il nous a parlé à travers le cosmos qui est écrit à travers le langage mathématique. C'est-à-dire que Dieu nous parle à travers deux types de langage, mais à condition de postuler encore que c'est Dieu qui est à l'origine de ce système du monde. Et aujourd'hui, c'est justement ça qui est en question, hein, sur le plan scientifique. Beaucoup de scientifiques, pourtant des chiffres de l'infiniment grand ou l'infiniment petit, ne peuvent pas dire que ça rend gloire à Dieu. Pour eux, c'est de la belle mécanique, et c'est les lois mathématiques ou les lois physiques ou biologiques qui sont en jeu, mais je ne vois pas forcément Dieu derrière. Non, mais ça, c'est important. Hein, de... ouais. Le Big Bang, vous savez qu'il y a une histoire intéressante sur le Big Bang, c'est que c'est trouvé d'abord par un prêtre qui s'appelle l'abélomètre, qui est professeur à Louvain, c'est lui qui a trouvé ça. Bon. L'abélomètre était très heureux de sa découverte, mais il confessait qu'à 10 puissance moins 43 secondes avant le Big Bang, ou après le Big Bang, je ne peux rien dire de l'univers, puisque aucune loi physique ne peut fonctionner à l'achat avec les forces qui sont en présence. Bon. Alors, il est allé raconter ça à Pie XII, qui était passionné de science. Et Pie XII était quelqu'un qui allait même observer à l'Observatoire du Vatican. Il allait la nuit regarder un peu le ciel à travers les télescopes, hein, du Vatican. Et il voulait faire entrer, enfin, il voulait déclarer solennellement que finalement, l'acte créateur, c'était le Big Bang. Et l'abélomètre lui a dit, faites surtout pas ça, parce que ça n'est qu'une hypothèse scientifique. Et un jour ou l'autre, elle sera remise en question. Donc on referait encore un coup de Galilée, si vous voulez. Vous avez canonisé le Big Bang, mais en fait, ça n'est qu'une hypothèse. Et Pie XII, bien sûr, n'a pas canonisé cette affaire-là. Je crois que ce qu'il faut accepter, au fond, c'est le... d'une certaine façon, il faut avoir la foi en un Dieu créateur pour contempler Dieu dans ses œuvres de création. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la foi au Dieu créateur, c'est pas la beauté de l'univers qui va vous conduire vers Dieu. Je crois que ça, c'est ce que montrera très bien le texte de Kant que je vais vous lire à la fin. C'est-à-dire que, effectivement, la beauté de la création ne suscite pas forcément l'admiration du Créateur. À tel point, d'ailleurs, que vous avez le problème est posé avec toute son acuité dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament confondus, c'est que dans le livre de la Sagesse en particulier, vous avez tout un chapitre où l'auteur dit « Mais comment se fait-il ?» que ces gens qui ont contemplé le ciel et les merveilles de la création aient adoré la chose, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, les astres, ce qu'on appelle l'astrolatrie. Hein. Adorer les astres, c'est une forme d'idolâtrie. Et alors, l'auteur du livre de la Sagesse, il est marrant parce qu'il dit, mais enfin, au lieu d'atteindre le Créateur à travers les choses créées, ils se sont arrêtés à la chose créée et ils l'ont adorée, en particulier le soleil, la lune et les étoiles. Et il conclut sa démonstration en disant « Il faut reconnaître qu'ils sont vachement beaux. » Mais ils se sont arrêtés là. C'est-à-dire que, vous voyez, on voit très très bien que là... Et ce psaume-là, à mon avis, est écrit dans un contexte d'idolâtrie ou d'astrolâtrie. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu si on a le temps. Et pour montrer justement que la plupart des gens qui environnent Israël, que ce soit les Égyptiens, les Mésopotamiens ou les Cananéens, adorent les astres. Or, ici, vous avez une démythologisation très forte des astres pour montrer que les astres ne sont que des éléments de la création et qu'au lieu de louer les astres, enfin, ou de les adorer, il faut adorer celui qui les a créés, qui est le créateur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il dit que les astres parlent un langage que nous ne comprenons pas. Hein, on n'entend rien, on voit des trucs, mais on n'entend rien. Le psaume, c'est très fort de dire ça. Ne comptez pas sur eux pour vous dire une parole sur Dieu. Simplement, il raconte, mais c'est inaudible. Hein, il y a du récit, il y a du langage, mais c'est inaudible. Oui. Les sont des dieux. Oui. Oui, oui. D'accord. Oui. Mais pratiquement dans tout le Proche-Orient, hein, que ce soit l'Égypte ou la Mésopotamie, vous avez un certain nombre de textes qui, je regarde l'heure quand même, parce qu'on est en train de tourner là, mais c'est pas très grave, on est dans le sujet. Hein. Il y a un certain nombre de textes bibliques, si vous voulez, qui interdisent d'adorer le ciel et d'adorer le soleil. En particulier le Deutéronome. Je crois que c'est ça qui est important pour notre histoire, c'est que l'auteur, à la fois, il sait très très bien qu'il ne faut pas adorer le soleil, mais que les gens le font. Si tu trouves au milieu de toi, dans une de tes villes que Yahvé, ton Dieu, te donne, un homme ou une femme qui fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, c'est ça le mal dont il est question à la fin, le mal caché, c'est l'astrolâtrie, bien entendu, en transgressant son alliance et qui s'en va servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, devant le soleil, la lune et toute l'armée des cieux. L'armée des cieux, c'est les étoiles. Hein. Ce que je n'ai pas ordonné, bien cet homme-là ou cette femme-là, tu la tueras. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit d'exister. Manassé, on sait que Manassé a bâti des autels à toute l'armée des cieux, c'est-à-dire aux étoiles. On sait que Josias a supprimé tous les endroits. Oui, je vous lis le texte. Il supprima aussi ceux qui brûlaient de l'encens en l'honneur de Baal, du soleil, de la lune, des constellations, de toute l'armée des cieux. Je veux dire, l'astrolâtrie est un truc classique dans l'Ancien Testament. Et vous retrouveriez ça chez Jérémie. Où il demande que, et où Ézéchiel, hein, il m'emmena vers le parvis, même à l'intérieur du temple de Yahvé, hein, voici qu'à l'entrée du temple de Yahvé, entre le vestibule et l'autel, il y avait environ 25 hommes, le dos tourné au temple de Yahvé, et le visage tourné vers l'Orient, se prosternant vers l'Orient devant le soleil. On adore même le soleil dans le temple. Vous comprenez que c'est Ézéchiel 8:16. Ézéchiel 8:16. Vous auriez la même chose dans le psaume, dans Jérémie 44. On voit très très bien, à travers cette dizaine de textes, que l'astrolâtrie est pratiquée et que l'auteur du psaume sait qu'on pratique l'astrolâtrie. Donc, il part du principe qu'on peut dire du bien du soleil, de la lune, des étoiles et tout ça, mais à condition de ne plus leur conférer de divinité, mais d'être simplement les messagers du Créateur. Avec une limite, c'est que le message qu'ils donnent n'est pas perceptible pour l'homme, c'est-à-dire le message, ils sont porteurs d'un message, ils chantent la gloire de Dieu, mais l'homme, d'une certaine façon, est inapte à capter ce message qui parle de Dieu à travers les astres. Il s'arrête aux astres et il pratique l'astrolâtrie, comme on le voit ici et comme on le voit dans beaucoup d'autres textes. Et tous les peuples du Proche-Orient, que ce soit l'Égypte avec le dieu Ra, ou que ce soit la Mésopotamie avec Shamash, le soleil, sont adorés, enfin, on pratique le culte des astres. voyez un petit peu. Alors, le psaume, lui, il va montrer que les astres sont très importants, mais il va leur conférer une place complètement démythologisée, c'est-à-dire ils ne sont pas divins, même pour les Grecs, les astres sont divins pour les Grecs. La parcelle en nous d'esprit qui est en nous provient des astres qui sont éternels, elle tombe en nous au moment de la fusion de notre âme et de notre corps, et à notre mort, cette parcelle de divin qui est en nous retourne vers les astres, d'où elle est partie. Vous voyez, même les Grecs ont une conception divinisée des astres. Alors, ce psaume-là s'inscrit en faux par rapport à ça, pour dire, les astres n'ont rien de divin, ils sont au service du Créateur, pour dire quelque chose sur le Créateur, et vous me permettrez de finir la première partie, pour ne pas que j'aie à y revenir tout à l'heure, à savoir que, au point de vue de la sémantique, c'est les astres, en quelque sorte, ne font pas autre chose que d'être les témoins de la gloire de Dieu. Mais la question, c'est que l'homme risque de s'arrêter à ce qui est vecteur de cette gloire. Et en tout cas, il ne comprend pas autre chose et il en reste très souvent au vecteur au lieu d'aller vers Dieu. Alors, d'où l'importance du registre cosmologique dans cette session, avec les cieux, le firmament, bon, le jour, la nuit, vous voyez, il y a le temps, il y a l'espace, il y a du mouvement et il y a de la stabilité. Et la deuxième section, à propos du soleil, on est plutôt avec vous voyez, la première section, c'est plutôt l'ouïe qui est stimulée au point de vue des sens, raconter, parole, etc. Enfin, toute la sémantique des verbes et des noms qui connotent l'audition ou la parole, c'est l'ouïe qui est sollicité, mais on n'entend pas. Bon. Et la deuxième partie, au contraire, avec le soleil, c'est plutôt la vue, parce qu'on le voit là-haut, il sort, il court, il rejoint son espace, et il n'y a pratiquement pas de temps. Il n'y a pas de temps. Enfin, il y a une temporalité entre le lever et le coucher, mais c'est un temps qui est mobile, alors qu'on a un temps cyclique dans la première partie, puisque c'est jour et nuit. Mais ce qu'il faut ajouter pour la première partie, c'est qu'on est dans un registre anthropologique et surtout auditif et, disons, de type nuptial, mais c'est le registre anthropologique. Alors, de la parole, raconter, annoncer, dire, faire connaître, parole, mot, discours. Et puis, le deuxième, que moi je mettrais sur une anthropologie de l'habitat, planter sa tente, sortir de la chambre, etc. Et même, ça va encore plus loin au point de vue anthropomorphisme, puisque le soleil est comme un époux qui sort de sa chambre nuptiale. Et on compare donc le... Alors que la deuxième partie, il y aura une dominante anthropologique, mais qui va se combiner continuellement à un registre anthropologique. Je voudrais vous montrer ça, mais après un petit temps de pause, parce que je ne veux pas abuser de votre patience. Donc, prenez le temps. Mais je crois que ce dont on a parlé est tout à fait dans la logique même de ce que le texte fait faire. Vous voyez, à un moment donné, il fait prendre la parole. Alors, on a l'impression que c'est une digression. Moi, j'avais pas préparé ça. Et c'est pas faute d'avoir préparé des choses que je vous ai laissé vous lancer. Hein. C'est tout à fait...
Qu'est-ce qu'ils prennent les Juifs actuels ?
Les Juifs ? Oui. Alors, oui, ils ont... Bah, c'est la Bible du rabbinat, surtout, hein. Mais qui n'est pas meilleur que d'orme. Ils sont, même quelquefois, on est un peu déçus parce que, au lieu de suivre le texte massorétique, ils suivent, ils se débrouillent comme ils peuvent, quoi. On est un petit peu déçus que ce soit pas plus littéral, quoi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les traditions talmudiques. Bon, sur les...
Oui, parce que c'est intéressant.
Bien, on va reprendre. Alors, je finis la sémantique du psaume. Donc, vous voyez, la première partie utilise deux registres cosmologique, le ciel, le soleil. La première section consacrée au ciel sollicite surtout l'ouïe, ce qui vous viendrait probablement pas, enfin je veux dire, dans un premier temps, c'est pas forcément ce qui vient à l'esprit. Quand on voit un très beau paysage, on le regarde et on n'entend pas parler par certains côtés. Le silence éternel de ces abîmes infinis. M'effraie, c'est-à-dire me rendre silencieux, hein, en gros. Hein? Voilà, écouter le silence de ces espaces infinis. Oui. Alors, la deuxième section, au contraire, elle sollicite la vue du soleil avec ce côté un petit peu mystère du soleil qui apparaît et disparaît et que l'on compare à, disons, avec une deuxième sémantique, qui n'est pas simplement cosmologique, auditive et sensorielle, mais là, on est carrément dans l'anthropologique, puisque les cieux parlent, racontent, annoncent, etc. Et le soleil est un époux qui sort de chez lui. La deuxième partie, 19b, elle va mélanger continuellement l'anthropologie et la cosmologie. Ça, c'est beaucoup moins... Je n'ai pas trouvé ça beaucoup dans les commentaires. Je m'explique. La loi du Seigneur est parfaite. Bon, je reviendrai tout à l'heure sur les différents mots, loi, témoignage, précepte. Bon. Les préceptes du Seigneur sont droits, le commandement est limpide, etc. Bon. Alors, vous avez dans cette deuxième partie, par exemple, on va dire que la loi est lumière pour les yeux. Elle est lumière pour les yeux. Ben, lumière, c'est de la cosmologie, les yeux, c'est de l'anthropologie, enfin, ou de l'animal, mais ici, c'est anthropologique. Les jugements sont plus désirables ou désirables plus que l'or et leur fin. Désirable, c'est anthropologique. On ne peut pas dire qu'un animal peut désirer, mais pas une pierre, hein, pas le soleil. Et que l'or, c'est de la cosmologie. Bon. Plus douce, c'est cosmologique aussi, c'est anthropologique également, plus douce au palais, que le miel, c'est cosmologique. Voyons, on retombe continuellement, on mélange un peu les deux. Donc la loi, si vous voulez, je ne peux en parler à la fois que sur un mode cosmologique, alors que la première partie était cosmologique, on en avait parlé sur un mode anthropologique, la deuxième partie qui est essentiellement anthropologique, on en parle aussi sur un mode cosmologique. C'est assez marrant comme astuce sémantique de la part de l'auteur, il y a un côté génial. Hein. Alors maintenant, deuxième sémantique de la deuxième section, c'est le langage de la loi. Le langage de la loi. Et là, vous avez à peu près tous les mots qui peuvent qualifier la loi. Alors, je ne vais pas les prendre dans l'ordre où ils sont dans le texte. Je vais les prendre du plus simple au plus complexe. Tout d'abord, on pourrait dire en gros que le mot le plus englobant pour parler de la loi ou de cette sémantique de la loi, c'est la parole. Dieu parle. Dieu parle et la loi est parole de Dieu, entre guillemets. Un deuxième mot qui intervient, le dit. Alors ici, on a traduit comme on a pu, parce que c'est un mot qui n'est pas commode à traduire. C'est quelque chose qui signifie, si vous voulez, c'est un peu synonyme de parole, mais c'est dire quelque chose. C'est synonyme du premier mot, parole. Parole, c'est dabar, en hébreu. Dabar, medaber, parler. Alors, dabar, c'est à la fois la parole et la chose, c'est-à-dire c'est la parole qui crée une chose. Dire, c'est faire. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez, c'est ça le dabar. Tandis que imra, c'est presque un synonyme poétique qui signifie également parole, mais qui n'a pas la puissance du premier mot. C'est un terme poétique et c'est un terme beaucoup moins employé. Alors, les statuts, c'est tout simplement un vieux mot qu'on trouve dans les documents législatifs de la Bible, un terme ancien également, et généralement qui indique un précepte de la loi, un précepte de la loi auquel est attachée une sanction. C'est-à-dire, si tu fais cela, tu seras puni de cela. Hein, vous voyez, il y a un rapport entre le statut, c'est ça. Alors, en français, on traduit par statut, c'est pas très bon, mais on peut pas faire autrement. On peut traduire aussi par précepte, bon, mais on fait ce qu'on peut. Alors, les jugements, c'est des choses qui caractérisent un certain nombre de lois. Et c'est au fond un énoncé législatif ou un énoncé de normes. Et puis alors, le mot peut-être le plus, qui a le plus de contours sémantiques, enfin qui est le plus large, c'est le terme Torah, la loi. Alors qu'est-ce que c'est que la Torah ? C'est d'abord un enseignement qui peut être donné par un prêtre, une instruction, c'est la doctrine. Et c'est plutôt un terme qui appartient à la théologie sacerdotale, c'est-à-dire que la loi, c'est d'abord l'enseignement des prêtres qui rappellent ce qu'il y a d'écrit dans la loi, et la loi va finir par désigner l'ensemble du texte où se trouvent les lois qu'on appelle le Pentateuque. Nous, on l'appelle le Pentateuque, les cinq rouleaux, parce que nous parlons grec, mais les juifs l'appellent la Torah. Et ils vont même, ça va même aller plus loin, puisque les juifs vont appeler Torah, les juifs non scientifiques, les juifs pieux, vont appeler Torah non seulement les cinq livres du Pentateuque, mais toute la Bible. Toute la Bible, c'est la Torah. De manière scientifique, les juifs scientifiques n'utiliseront pas le mot Torah pour désigner toute la Bible. C'est-à-dire que ça désigne pas un... On voit bien, Nevi'im, ça désigne quand même les prophètes, et on met là-dedans les prophètes antérieurs et postérieurs. Pas autant que les grands prophètes. Et dans les Ketuvim, vous avez tout. Hein. Vous avez les psaumes, vous avez Job,
je vous en ai parlé. Ah non, c'est pas à vous que j'en ai parlé.
Tous les livres sapientiaux sont là-dedans. Hein. Et les livres, par exemple, des chroniques font partie également de ça. Esdras, Néhémie, vous voyez, c'est le fourre-tout, hein, le troisième corpus. Tout ça pour vous montrer que Torah, pour les juifs pieux, peut désigner le Tanakh également. Alors, le commandement, surtout au pluriel, ça c'est plutôt lié au Deutéronome et aux injonctions prophétiques. Donc il y a une espèce de coloration prophétique ou deutéronomique là-dedans. Les témoignages, c'est souvent au pluriel. C'est un terme qui est très proche de la loi, mais dans certains corpus. Quant aux préceptes, eh bien, ce sont des prescriptions divines de la loi. Bon. Je dirais qu'en gros, il joue comme le psaume 119. Vous savez que le psaume 119, il va essayer d'utiliser tous ces mots-là dans la même strophe. Il n'y arrive pas toujours, hein. Il n'y arrive pas toujours, mais en gros, il prend les sept mots qui sont synonymes de la loi, en gros. Hein. C'est pour ça qu'on commence par la loi, pour vous dire, voilà, on va prendre la loi, mais tous les dérivés ou tous les termes qui sémantiquement connotent la loi, on va en dire la perfection. Mais en fin de compte, je pourrais mettre à chaque fois, la loi du Seigneur est parfaite, la loi du Seigneur est vraie, la loi du Seigneur est droite, la loi du Seigneur est limpide. Vous voyez que je pourrais mettre le mot loi à chaque fois, mais j'ai mis, on joue sur justement toute la panoplie des synonymes et toute la distinction que je viens de vous donner est pratiquement inutile. C'est-à-dire qu'en fait, on déploie toute la sémantique de la loi. Vous faites ça avec les litanies, par exemple, prenez les litanies du Saint-Nom de Jésus ou du Sacré-Cœur, ou de Marie, vous allez décliner toutes les vertus de Marie. Mais en fait, que vous appeliez Marie Tour de David, Arche d'Alliance, ou je ne sais pas quoi, je vous ai dit ça à propos du vocabulaire émotionnel, que vous appeliez la bien-aimée Mon Chou ou Mon Rat, pas grande différence, sinon quand même que le rat est moins sympathique que le chou. Bon, mais... Voilà. Donc c'est à peu près la même chose ici. Il a mis des mots différents, mais manifestement, on est dans une sémantique émotionnelle. Émotionnelle au sens où je l'ai défini dans mon début de cours. Alors, l'intérêt quand même de la loi ici, c'est qu'elle permet quand même d'unifier tout ça autour quand même d'un certain nombre de thèmes qui sont relativement intéressants, puisqu'il s'agit, qu'est-ce que produit la loi ? Qu'est-ce que produit la loi ? Bien, la loi, elle produit la pureté morale, qui n'a rien à voir avec la pureté rituelle. Vous savez que dans la Bible, il faut vraiment distinguer pureté morale, pureté rituelle. La pureté rituelle, c'est je suis en conformité avec les lois rituelles qui me demandent de faire telle ou telle chose ou qui interdisent telle ou telle chose. Et très souvent, nous, dans le catholicisme, on confond pureté rituelle et pureté morale allègrement. Il y a très peu de règles, il n'y a pas de pureté rituelle pratiquement dans le christianisme. Enfin bon, on en a mis un peu. Mais la pureté morale, non, c'est vraiment la droiture de cœur. Ce qu'on appelle la droiture de cœur, c'est quelqu'un qui n'est pas tordu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ce n'est pas de la pureté sexuelle ni de la pureté rituelle qu'il s'agit. C'est heureux les cœurs qui sont sans détour. Ils verront Dieu. C'est totalement différent. Deuxièmement, la fonction de la... Donc la loi rend pure. Elle rend droit. La loi enlève l'ignorance et la loi est illuminative, c'est-à-dire qu'elle éclaire l'esprit. Ton serviteur lui-même en est éclairé, immuable et à jamais, et il en est tellement éclairé qu'il peut prendre la parole puisqu'il dit « Seigneur, fais que je m'en pénètre de cette loi afin que j'observe tes commandements, etc. avec profit ». Parce que le but de l'observance des commandements, c'est essentiellement d'en tirer profit quand même. Vous vous souvenez du psaume 1 un petit peu, hein, qu'on a vu. Je ne pratique pas la loi uniquement pour le plaisir de la pratiquer, mais la loi est à la fois un plaisir et en même temps, elle produit quelque chose, elle produit le bonheur. Donc il y a un rapport au bonheur là-dedans. Alors on demande à Dieu quand même d'être préservé de l'orgueil, qui est le pire des maux. Alors qu'est-ce que c'est que d'être pur du grand péché ? Bon, vu tout ce qu'on a vu plus haut, à mon avis, le grand péché, ce serait deux choses. La première, c'est l'astrolâtrie ou l'idolâtrie. Vraiment, dans la Bible, c'est le grand péché. Hein. Le grand péché, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire fabriquer un Dieu. Ou bien alors, le grand péché, ce serait de croire que j'ai pas besoin de la loi. Ça peut être ça. Et puis il termine par une espèce de demande à Dieu, agréer les paroles. Vous voyez, après avoir loué la parole, lui il prend la parole, donc dans ce discours final, agréer les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. C'est intéressant parce que la bouche parle et le cœur est le lieu, je vous l'ai expliqué déjà, à la fois de la pensée consciente et en même temps de l'émotion superficielle. Donc, le murmure du cœur, c'est au fond cette espèce de toutes ces pensées, si vous voulez, qui nous envahissent intellectuellement ou émotionnellement, ça vient du cœur pour eux. Ils mettent rien dans le cerveau, comme vous savez. Devant toi, Yahvé, mon rocher, mon rédempteur. Donc, le titre qui est donné à Dieu ici, c'est le rocher, c'est-à-dire le stable des stables. Et le Rédempteur, celui qui me rachète. Je vous avais mis un peu dans la fiche de préparation tout ce qu'on pouvait mettre derrière l'idée de Goël. Donc, de celui qui rachète. Alors, je vous avais donné à la page 11 l'ombre portée du psaume. J'aime bien cette expression d'ombre portée, c'est-à-dire comment il a été interprété dans l'histoire. Et je vous ai mis pour la première fois le Midrash sur les psaumes, qui évidemment peut vous paraître complètement tordu par rapport à l'analyse qu'on a faite. Page 11. Pour eux, si vous voulez, le but du Midrash, c'est d'interpréter la Bible par la Bible. Et du coup, en racontant des histoires, Rabbi un tel a dit à propos de ce verset, et il a répété d'ailleurs ce que disait l'autre Rabbi un tel, qu'il avait tenu de Rabbi un tel, etc. Hein, ça fonctionne en... Les cieux racontent la gloire de Dieu. Alors, vous avez 36 interprétations possibles. Ce qui vous savez que dans la tradition rabbinique, il n'y a jamais une seule interprétation du texte. Nous autres exégètes, quelquefois, on vous donne les interprétations qu'il ne faut pas tenir parce qu'elles sont mauvaises, et il y en a une bonne, c'est celle du professeur, généralement. Donc, eh bien, dans la tradition rabbinique, c'est tout le contraire. Je te donne 6 interprétations et tu en fais ce que tu veux. Tu prends celle que tu veux. Là, évidemment, il y a quelqu'un qui dit, oui, d'accord, ça va bien pour la pensée. Je peux penser les 6 façons de concevoir les cieux racontent la gloire de Dieu, mais concrètement, comment je dois célébrer la Pâque ? Là, on me dit que Rabbi un tel a dit qu'on pouvait faire ça, Rabbi un tel a dit qu'on pouvait faire ça. Moi, je ne peux pas célébrer la Pâque de 3 façons, enfin, je la fais d'une seule façon. Quelle est la réponse des rabbins ? Tu feras comme faisait ton père. C'est-à-dire qu'on fait intervenir la transmission. C'est-à-dire que pour ce qui est de l'ordre de la pensée, vous pouvez penser ce que vous voulez, de « les cieux racontent la gloire de Dieu », il y a 36 interprétations possibles. Il n'y en a pas une qui soit la bonne, c'est ça que ça veut dire. Elles sont toutes bonnes dans le miroitement de chacune de leur propre cohérence. Mais il n'y en a pas une qui serait la parole, c'est une très belle expression d'un auteur juif français qui a écrit ça dans un bouquin, ce qu'il appelle l'interprétation de la dissémination. C'est-à-dire que le texte, si vous voulez, à partir du moment où vous prenez un verset de psaume, automatiquement, on pourrait faire l'exercice entre nous. les cieux racontent la gloire de Dieu. Mettez-moi 5 lignes chacun sur ce texte-là, en fonction de votre histoire, en fonction de votre connaissance de la Bible, en fonction de vos connaissances scientifiques éventuellement. Je vais ramasser des papiers où je vais avoir des choses complètement différentes et je vais fabriquer mon midrash avec tout ça en disant « Les cieux racontent la gloire de Dieu, Rabbi Intel a dit ». Alors le problème, c'est qu'il faut avoir autorité pour le dire, mais je peux collectionner tous vos trucs et d'une certaine façon, je ne peux pas vous dire. C'est dans ce sens-là que les rabbins vous disent, il y a une dissémination, c'est-à-dire qu'il y a, je peux dire, quelles sont les mauvaises interprétations. Tu ne peux pas trouver le Saint-Esprit dans les cieux, raconte la gloire de Dieu, en gros. Hein. Mais par contre, tu peux me dire beaucoup de choses. Je ne peux jamais dire quelle est la bonne, mais je peux dire éventuellement quelle est la mauvaise. Mais je ne peux jamais trouver quelle est la bonne. Et donc, la tradition rabbinique, c'est justement de faire miroiter au maximum ce verset-là, tel qu'il a été compris dans la tradition. Vous avez vu également dans la tradition chrétienne la manière dont ça a été commenté par certains pères de l'Église. J'en ai pas mis beaucoup exprès, mais j'ai mis des choses qui moi me parlaient. Alors c'est intéressant, hein, ce que dit Théodore de Cyr, par exemple. Hein. Il dit qu'une forme non écrite, grâce au bienheureux Paul, nous apprenons qu'il existe trois sortes de lois divines. Il dit qu'une forme non écrite de la loi fut donnée aux êtres humains dans la création et la nature. Une autre loi fut donnée sous forme écrite à Moïse, c'est-à-dire à travers la Torah. Et il connaissait aussi une troisième loi imposée après celle-ci, la loi de grâce, c'est-à-dire la loi donnée par le Christ. Le bienheureux David enseigne dans ce psaume aux êtres humains l'harmonie entre ces trois lois, en suivant le même ordre, celle que le Créateur prêche dans la création, puis celle qui fut donnée par l'intermédiaire de Moïse, en inspirant une plus grande connaissance du Créateur et ceux qui veulent y être attentifs. Après ça, la loi de grâce donnée par le Christ, purifiant parfaitement les âmes et les libérant de la destruction actuelle. Ceci, en fait, est la raison pour laquelle le psaume se réfère pour nous, à la fin, en nommant le Nouveau Testament à la fin. Mais c'est amusant de voir comment les pères... Ça, c'est une très bonne interprétation, je trouve, de texte par Théodore de Cyr dans son commentaire des psaumes. Grégoire de Nice fait sensiblement... parle de « Le monde entier est musique dont le compositeur et l'interprète est Dieu bon, ». C'est une belle phrase, ça. Et puis, je vous ai mis Kepler. Pourquoi Kepler? Tout simplement parce que Kepler est quelqu'un, Dieu sait s'il a passé sa vie à contempler les cieux, mais pour y chercher les lois mathématiques sur lesquelles j'ai été interrogé lors de mon baccalauréat d'ailleurs. On m'a demandé les lois de Kepler et on venait d'envoyer un Spoutnik pour la première fois dans l'espace et le prof m'a dit, vous savez, avec ces lois-là que vous venez que je vous ai demandé, on ira sur la Lune. Vous le verrez, moi je ne le verrai pas. J'espère qu'il l'a vu, parce que 10 ans après, on était sur la Lune. Hein. Et, bon. Alors Kepler, celui qui a trouvé justement le problème du rapport de distance, etc., et de masse des planètes, entre autres. Or, il a fait d'excellents commentaires bibliques, et je vous ai donné, si vous voulez, un tout petit passage de Kepler, mais bon, il y en a beaucoup d'autres, parce qu'il a un commentaire beaucoup plus long sur ce psaume, mais un peu technique. Or, en ce qui concerne les choses ordinaires, dont les lettres sacrées n'ont pas pour but de nous instruire, celles-ci parlent avec les hommes à la manière humaine pour être comprises par eux. Elles se servent de ce qui est incontesté pour eux, afin de communiquer d'autres choses plus élevées et divines. Quoi d'étonnant alors si l'Écriture parle aussi selon les sens humains, lorsque la vérité des choses s'écarte des sens, et pour les savants et pour les ignorants. Qui ignore en effet qu'il y a une allusion poétique dans le psaume 19, où tandis que sont chantés sous l'image du soleil le cours de l'Évangile, est bien plus le voyage que le Christ Seigneur a entrepris en ce monde pour nous. On dit que le soleil émerge de la tente de l'horizon comme... et qu'il est alerte comme, ce qu'imita Virgile, car la poésie a toujours existé chez les Hébreux, bon, puis cite un vers de Virgile. Or que le soleil ne sorte pas de l'horizon comme d'une tente, mais à qu'il en apparaisse sous les yeux, ça nous le savons, mais autant parler de ces choses-là par métaphore. Et un petit peu la manière dont Kepler, qui est un protestant, hein, un protestant bon teint. Et je terminerai ce cours en prenant peut-être le plus beau commentaire de ce psaume-là, chez M. Kant, dans la critique de la raison pratique. Alors, je vais essayer de vous lire ça de manière accessible. Donc, c'est que Kant a écrit une critique de la raison pure et une critique de la raison pratique. Dans la critique de la raison pure, il montre d'une certaine façon qu'il est impossible de prouver Dieu par la pensée, mais que la morale, justement, est le lieu où se révèle, en quelque sorte, la nécessité de penser Dieu. Il y a un rapport à ces choses-là. Et il termine sa critique de la raison pratique par un commentaire du psaume 18, du 19, que je vous lis, en essayant de vous l'expliquer. Il a voulu qu'on mette sur sa tombe le début de la citation. Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique. Deux choses donc me remplissent d'admiration et de vénération. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Ces deux choses, je n'ai pas besoin de les chercher ou de les conjecturer, même si elles sont enveloppées de ténèbres. C'est-à-dire que je ne sais pas tout sur l'univers, je ne sais pas tout sur la loi. Je les vois devant moi et je les rattache immédiatement à la conscience de mon existence. C'est-à-dire je suis sûr que le monde existe et qu'il y a en moi cette loi morale. La première, le ciel étoilé au-dessus de ma tête, commence à la place que j'occupe dans le monde extérieur des sens et étend la connexion dans laquelle je me trouve à l'espace immense où les mondes s'ajoutent au monde et les systèmes au système, et en outre à la durée sans limite de leur mouvement périodique, de leur commencement et de leur durée. À l'époque de Kant, on en savait un petit peu plus sur la machinerie céleste. Mais pour lui, ça le remplit d'admiration. La seconde, la loi morale, commence au moi invisible, à ma personnalité, et me représente dans un monde qui a une véritable infinité, mais dans lequel seul l'entendement peut pénétrer, et avec lequel, et par cela même aussi, avec tous ces mondes visibles, je me reconnais lié par une connexion, non plus comme dans le premier cas, à travers le monde cosmique, simplement contingente, c'est-à-dire j'existe, mais j'aurais pu ne pas exister, mais universelle et nécessaire, c'est-à-dire si j'existe, la loi morale en moi devient universelle et nécessaire, c'est-à-dire que, entre autres à travers ce qu'il appelle l'impératif catégorique, agis de telle façon que chaque fois que tu agis, tu puisses énoncer la maxime de te considérer à la fois comme sujet et de la loi, et en même temps législateur. Si je dis « tu ne tueras pas » ou « je ne dois pas tuer », eh bien cela vaut de manière universelle. C'est-à-dire je ne peux pas simplement dire ben, « en certaines circonstances, peut-être que, etc. » Non, il y a des choses qui s'imposent à moi de manière universelle et pour tout homme. C'est la différence entre le monde cosmique qui, lui, est tout à fait contingent. Pourquoi le monde est comme il est ? Il n'y a rien de nécessaire là-dedans. Le monde aurait très bien pu ne pas exister. Le premier spectacle d'une multitude innombrable de mondes anéantit, pour ainsi dire, mon importance en tant que je suis une créature animale qui doit rendre la matière dont elle est formée à la planète, à un simple point de vue de l'univers, à un simple point dans l'univers, après avoir été pendant un court instant, on ne sait comment, doué de force vitale. C'est-à-dire qu'un jour, je suis fait de la matière de l'univers, et un jour je devrais rendre à l'univers ce que j'ai reçu de l'univers, c'est-à-dire retourner à la Terre. Le second, au contraire, c'est-à-dire la loi morale, élève infiniment ma valeur. C'est-à-dire que je n'ai aucune valeur par le but de la création ou d'être une créature animale, puisque je vais disparaître. Mais en raison de la loi morale qui est en moi, au contraire, cela élève infiniment ma valeur comme celle d'une intelligence par ma personnalité dans laquelle la loi morale me manifeste une vie indépendante de l'animalité et même de tout le monde sensible, autant du moins qu'on peut l'inférer d'après les déterminations conformes à une fin, que cette loi donne à mon existence, détermination qui n'est pas limitée aux conditions et aux limites de cette vie, mais qui s'étend à l'infini. L'infini en moi n'est pas de l'ordre cosmique, il est de l'ordre moral de cette loi qui est en moi. Mais l'admiration et le respect peuvent bien nous exciter à la recherche, ils ne peuvent en tenir lieu. Qu'y a-t-il donc à faire pour entreprendre cette recherche d'une manière utile et appropriée à la grandeur de l'objet ? Des exemples peuvent ici servir d'avertissement, mais aussi de modèle. La considération du monde a commencé par le spectacle le plus splendide que les sens de l'homme peuvent nous présenter et que puisse embrasser notre entendement dans sa plus grande extension, et elle a fini par l'astrologie. La morale a commencé par la plus noble propriété de la nature humaine dont le développement et la culture ont en vue une utilité infinie, et elle a abouti au fanatisme et à la superstition. Il en est ainsi de tous les essais encore rudimentaires, dans lesquels la partie principale du travail dépend de l'usage de la raison, qui ne s'acquiert pas de lui-même comme celui des pieds par un exercice fréquent, surtout quand il s'agit des propriétés qui ne peuvent être représentées immédiatement, ainsi dans l'expérience commune. Mais lorsque, bien que tardivement, la maxime fut venue en honneur de bien examiner préalablement tous les pas que la raison doit faire et de ne pas laisser s'avancer autrement que par le sentier d'une méthode auparavant bien déterminée, la manière de juger, etc. Je dirais que pour Kant, d'une certaine façon, plus je réfléchis à ce qui est en moi et qui fait ma singularité et en même temps mon universalité, je découvre quelque chose qui est de l'ordre de l'infini, que ne donnait pas le sentiment de contempler la nature. Vous voyez la différence entre les deux. C'est un commentaire quand même très, très autorisé que vous pouvez relire. C'est la finale de la raison pratique où il montre qu'au fond, on pourrait croire que les cieux sont une grande chose au point de vue cosmologique, cosmique. Mais je vous dis, avec le risque de s'y arrêter, parce que ce qui est très intéressant, c'est que Vatican I, qui va défendre la possibilité pour l'homme de connaître Dieu à travers la raison et à travers, en quelque sorte, la création. Il dit qu'il faut absolument défendre ça contre les protestants ou contre les rationalistes, que la raison ne peut pas atteindre Dieu. Bon, ce sera un thème favori de Benoît XVI. C'est-à-dire que la raison peut atteindre. Mais il ajoute, finalement, chaque fois que les hommes ont cherché à atteindre Dieu par la raison, ils se sont plantés, ils n'y sont pas arrivés. Le véritable Dieu ne peut être découvert que par la révélation. Parce que les protestants nient complètement que la raison est tellement engluée par le péché qu'elle ne peut pas découvrir Dieu. Or, il faut que ce soit les catholiques à Vatican I qui disent non, la raison peut permettre de découvrir Dieu. Je reconnais que dans l'histoire, on s'est toujours planté. Mais malgré tout, il faut maintenir le postulat que la raison puisse découvrir Dieu. Et d'une certaine façon, la véritable identité de Dieu n'apparaîtra que dans la révélation. Alors si je prends une comparaison un peu triviale, je vous dirais pourquoi Vatican I a-t-il tenu autant à donner l'importance de la raison dans la découverte de Dieu. Tout simplement parce que si Dieu, par sa révélation, vient nous parler et vient se révéler tel qu'il est, il faut bien qu'il ait une piste d'atterrissage en nous, qu'est la raison sur laquelle va atterrir la révélation, voyez. Donc on peut comparer la révélation à un avion qui va atterrir. S'il n'y a pas de piste où atterrir en l'homme, évidemment, il ne va pas pouvoir accorder. Donc il y a un rapport raison-révélation très fortement marqué à Vatican I et qui est absolument nécessaire à maintenir. Les protestants ne pensent, eux, qu'à la possibilité de la révélation et ne veulent pas que la raison découvre quoi que ce soit. Alors on peut aboutir à M. Kant. M. Kant est un bon protestant qui, lui, finalement, la véritable loi intérieure est une loi révélée par Dieu. Et elle révèle Dieu en même temps. Mais il ne fait pas du tout... La raison pure ne peut pas découvrir Dieu. Voilà. Alors, vous allez avoir du boulot pour la prochaine fois. Psaume 22, ce sera l'avant-dernière. Donc, vous allez droit à un feuillet plus le psaume en hébreu.